Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International sur RFI, comme chaque jour, comme sur tous ces temps-ci où nous parlons particulièrement de football africain, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de matchs, même en ce moment, à l'heure où on vous parle. En tout cas, aujourd'hui, nous évoquerons d'abord l'un des candidats à la présidence de la CAF. Dans l'émission d'aujourd'hui en direct, c'est le président de la Fédération sénégalaise, Augustin Senghor, qui répondra à nos questions sur les raisons qui le poussent à vouloir diriger la Confédération africaine. Les Lions de la Teranga, justement premiers qualifiés de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les finalistes de la CAN en Égypte sont déjà au rendez-vous avec leur star Sadio Mané. Et les Fennec les ont rejoints tout à l'heure, ces Lions. Les deux derniers, donc finalistes déjà qualifiés, la logique semble respectée. Nous évoquerons aussi la belle histoire des Sélacantes, c'est les Comoriens qui sont tout près de leur première CAN, et puis la belle remontada, ainsi l'a-t-on baptisée, celle du Sierra Leone face aux Super Eagles du Nigeria, voilà qui promet pour le match retour. Enfin les Bleus, enfin je plaisant, enfin des stars de cette équipe à leur niveau et des champions du monde qui ont dominé et battu les champions d'Europe. La France première qualifiée pour le tournoi final de la Ligue des Nations, mais ça sera dans un an. Présent dans ce studio pour évoquer ces sujets, Habib Bey. Bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là, bravo les Lions.
Bravo, comme d'habitude, le Sénégal rayonne en ce moment, vous savez.
Ils sont là à l'heure. Franck Simon de France Football, bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Olivier Pron est à mes côtés. Bonjour Olivier.
Décidément, on ne se quitte plus.
N'est-ce
bonjour
pas
Annie, bonjour à tous.
Depuis vendredi. Et puis Naïmoniol nous rejoindra d'ici peu dans cette émission. Radio Foot, c'est parti. Ils sont donc 5 candidats au siège de la présidence de la CAF depuis que les inscriptions au scrutin du 12 mars 2021 sont closes. Et depuis vendredi dernier, donc, nous connaissons tous leurs noms. Je vous les rappelle, le président sortant, le malgache Ahmad, le sud-africain Patrice Motsepe, homme d'affaires, l'ivoirien ancien dirigeant de la FIF, Jacques Hanouma, que nous avons entendu dans Radio Foot vendredi, le mauritanien président de sa fédération, Ahmed Yahia, que nous entendrons demain, et puis Augustin Senghor, maître Augustin Senghor, comme on l'appelle à Dakar, car c'est un avocat, mais c'est aussi le maire de Gorée et depuis 11 ans, le président de la Fédération sénégalaise de football. Bonjour Augustin Senghor.
Bonjour Annie, bonjour à tout le monde.
Merci beaucoup d'être dans Radio Foot International aujourd'hui, d'accepter notre invitation, puisque on l'a lancé à tous les candidats à la présidence de la CAF. Et ma première question, eh bien, elle va être simple et directe. Pourquoi vous êtes-vous porté candidat à la présidence de la CAF? Mais surtout, est-ce que vous avez hésité parce que vous l'avez fait apparemment dans les derniers instants, juste avant leur limite, jeudi à minuit?
Merci Annie. Je dirais pourquoi. Je répondrai simplement parce que aujourd'hui la CAF est à la croisée des chemins et il est important au sortir de 28 ans de gouvernance du président Ayatou, ainsi que donc le changement intervenu avec le président Ahmad, qu'on puisse essayer de rebâtir cette maison CAF autour d'un leadership qui lui permette quand même de sortir des difficultés, parce que je pense qu'aujourd'hui, malgré tout le travail qui a été fait par l'équipe du président Ahmad, il a hérité d'une CAF qui a besoin de se moderniser, qui a besoin de stabilité et qui a besoin, à mon avis aussi, d'unité et surtout de développement, de bonne gouvernance. Autant de choses qui font que j'ai pensé que je pouvais être celui qui pourrait apporter tous ces éléments pour un changement qualitatif et durable.
Mais vous avez hésité?
Hésité, je dirais que j'ai toujours vogué sur des eaux de certitude. D'abord, quand j'ai dit que je ne me présenterai pas face au président sortant, Ahmad, pour la simple raison que je suis très attaché à certaines valeurs de loyauté, de solidarité. J'étais dans une équipe dirigée par un président. J'y ai des responsabilités importantes. J'estimais que après son premier mandat, qui était un mandat assez particulier, assez difficile, s'il devait se représenter, je serais à ses côtés pour l'accompagner. Et malheureusement, on le sait aussi, aujourd'hui, que ce soit lui comme nous, nous sommes un peu dans l'incertitude face à une situation qui n'a pas, à mon sens, donc été maîtrisée par qui que ce soit, c'est-à-dire cette procédure devant la commission d'éthique qui laisse planer une épée de Damoclès. Et c'est fort de cela qu'après réflexion et aussi après échange avec beaucoup de mes collègues du comité SUF et de président de fédération qui m'ont incité aussi à y aller, j'ai décidé d'y aller. Certes à ses côtés pour le moment, mais en tout cas je suis déterminé à aller au bout si c'est nécessaire donc dans cette élection.
Olivier Pron.
Si c'est nécessaire, bien sûr, ça dépendra du sort qui va devenir au président Hamad et nul ne le sait. Bonjour Monsieur Senghor. Ma question justement, c'est quels sont vos soutiens? On a posé la même à Jacques Hanouma vendredi. On imagine, vous êtes soutenu par votre fédération, ce serait dommage, vous en êtes le président. Mais qui d'autre vous soutient?
Sans leur soutien, je ne pourrais même pas être candidat d'ailleurs, d'après nos textes. En fait, aujourd'hui, mon dossier a été déposé avec le soutien de la Fédération Sœur de Gambie et de la Fédération Gabonaise de Football. Parce que simplement, il fallait remplir ces conditions qui veulent qu'il faut une fédération qui propose et trois fédérations, dont la fédération dont on est ici, qui soutiennent cette candidature. Donc, c'est ces trois fédérations-là qui ont soutenu ma candidature, qui a été déposée à l'extrême limite, c'est vrai, mais qui remplit toutes les conditions nécessaires pour de validation.
Vous êtes membre du comité exécutif de la CAF. Vous l'avez rappelé, donc vous venez d'être aux affaires pendant 4 ans. Quel tyran vous bilez vous, quel tyran vous bilez, c'est pas mal ça comme là-dessus. Ça,
ouais, ouais.
Quel bilan vous tirez? Je suis désolé, n'était pas calculé. Hein, ça, n'y voyez pas un quelconque sous-entendu.
Non, vous avez vu les oracles, c'est bon pour moi.
Non, mais quel bilan vous tirez de ces 4 années où vous avez été aux affaires? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Certains Africains considèrent que la FIFA a eu un petit peu la main sur les choses. Vous nous dites que vous restez solidaire du président Hamad. Donc vous êtes convaincu que ce bilan, il est positif pour vous?
Écoutez, je dois préciser d'abord que je n'ai été élu pour la première fois qu'en 2018, en février 2018, pour terminer le mandat de notre membre sortant. Je suis là depuis 2 ans. Mais déjà, avant même d'être membre du comité exécutif, le président Hamad m'avait fait confiance en m'apportant à la vice-présidence de la commission juridique et des associations. Donc, je peux effectivement dire que je suis là depuis 4 ans. Je n'ai aucun problème pour cela. Simplement parce que j'estime que pendant ces 4 ans, beaucoup de bonnes choses ont été faites. Même si, d'abord parce que il y avait ce phénomène de nouveauté pour l'équipe qui était en place. Vous le savez, quand il y a des ruptures brusques, ça laisse des traces. C'est-à-dire, il y a eu un changement total au niveau, de l'équipe administrative. Et aussi au niveau de l'équipe exécutive, de sorte que forcément on est face à la nouveauté et on peut avoir des difficultés à pouvoir se mettre sur les bons rails. Mais à côté de cela, il y avait cette volonté, en tout cas, du président et son leadership pour essayer d'impulser une nouvelle dynamique à la CAF. Certaines actions ont été certainement saluées par tout le monde. Mais à côté de cela, il y a eu beaucoup de remue-ménage, beaucoup de bruit qui ont presque occulté les bonnes choses qui ont été faites par l'équipe du président Hamad. Et moi, je m'en désole parce que simplement, je dois dire clairement que l'une des difficultés de la Confédération, ce ne sont pas les autres. On cite souvent la FIFA et moi, je dis que notre problème, c'est pas la FIFA, c'est nous-mêmes. Un manque de solidarité, un manque de mise en avant de l'intérêt général du football africain et je dirais même une certaine volonté de trop politiser la CAF parce qu'à longueur des 4 années de mandat, on passe son temps à se positionner, à calculer, à organiser des actions visant à torpiller l'image de la CAF et en le faisant, nous mettons-nous tous une balle dans le pied, et je suis désolé de le dire comme ça, mais j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Beaucoup de choses n'ont pas été bien faites ou ont été mal faites parce que peut-être il y avait un côté, comme j'ai dit, de noviciat, mais beaucoup d'autres choses ont mal tourné parce qu'il y avait une volonté manifeste de nuire à la CAF. Et aujourd'hui, je pense que depuis 2 ans, il y a une certaine stabilité qui est revenue. Et sous ces bases-là, le rapport, en tout cas le bilan du président Hamad et de notre équipe est largement favorable puisque nous sommes en train d'arriver à moderniser la gestion de la CAF et surtout de nous mettre sous les standards internationaux pour rapprocher davantage notre fonctionnement, notre management. Et surtout, c'est ça qui est le plus important en football, le jeu que nous faisons sur le terrain, de ce qui se fait de mieux dans le monde au sein des autres confédérations ou pourquoi pas de la FIFA.
Ça veut dire, puisque vous parlez de la FIFA, que vous ne considérez pas comme certain qu'il y a eu mise sous tutelle, que la FIFA a pris trop d'importance. Vous souhaitez au contraire, c'est ce que vous avez rappelé ce matin dans votre conférence de presse d'ailleurs, je crois, travailler main dans la main avec la FIFA et continuer à avoir une FIFA très présente dans les affaires du continent dans les 4 années qui viennent si vous êtes élu.
De toute façon, pour tous les candidats, il ne saurait en être autrement. Parce que naturellement, la FIFA est l'instance fêtière. Elle est appelée à collaborer, à accompagner toutes les confédérations. Donc à partir de là, ça ne me gêne nullement. Et je pense même que c'est souhaitable d'avoir d'excellents rapports avec eux, de pouvoir travailler. Après, en tant que 2 entités indépendantes, on doit pouvoir s'asseoir pour dire dans quel cadre cette collaboration doit s'inscrire. Et surtout, je pense que c'est ça qui est le plus important, se faire confiance mutuellement. Une fois qu'on décide qu'on aille au bout de notre décision en termes de niveau d'engagement de la FIFA, mais aujourd'hui aussi, que les instances qui sont celles de la CAF puissent continuer à œuvrer et à fonctionner normalement. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a eu une incompréhension de part et d'autre. Beaucoup parmi nous, ça je le dis, j'aime bien dire la vérité, au niveau du comité, nous avons pensé que on venait nous amener la FIFA au sein de la CAF et que nous-mêmes, organes réguliers, nous n'aurions pas la possibilité de nous exprimer sur la marche de notre confédération. D'un autre côté aussi, je pense que compte tenu de beaucoup de difficultés qu'on avait connues, la FIFA a voulu apporter une aide parce que c'est la volonté affichée du président Infantino depuis le début. Je pense que les actes qu'il a posés depuis le début permettent de considérer qu'il est proche de l'Afrique et qu'il a envie d'accompagner la Confédération africaine de football. D'abord en choisissant pour la première fois une secrétaire générale africaine. Pour mon plaisir, je dirais sénégalaise aussi. Mais aussi en prenant des mesures fortes dans le cadre du développement du continent. Je dirais même en faisant de l'Afrique une priorité dans sa politique de développement, d'accompagnement dans le cadre du programme FOOD. C'est autant d'aspects que personne ne peut nier et je ne pense pas que ça soit de bon ton de penser à couper ce lien ombilical. Mais après, il faut qu'on puisse jeter les bases d'une collaboration claire et saine qui ne laisse place à aucun doute de part et d'autre.
La secrétaire générale, c'est justement Fatma Samoura, hein, la sénégalaise. Mais quand vous parlez de relations et de collaboration entre la CAF et la FIFA, on a entendu la FIFA désirer, plus ou moins à voix haute, d'une Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Est-ce que vous allez résister ou est-ce que la CAF peut résister à ce genre d'injonction de la FIFA?
À mon avis, j'étais à Rabat lorsque ce problème a été posé. Je n'ai pas eu l'impression vraiment que c'était une injonction puisque à mon sens, on est en pleine réflexion pour une restructuration de nos compétitions. La vérité, tout à l'heure, je disais qu'il faut qu'on se rapproche des standards internationaux, de ce qui se fait dans toutes les confédérations, pour valoriser nos compétitions. Organiser des compétitions pour les organiser, ça n'a plus de sens en 2020 ou 2021. Ce qu'il faut, c'est une exposition d'un spectacle qui s'appelle le football, et surtout une valorisation de cette activité pour que ça soit attractif. Et aujourd'hui, à ce niveau-là, le bas blesse. Je pense qu'il faut une plus grande réflexion pour savoir ce qu'il faut. Parce que je pense que, pour ma part, que l'Afrique a besoin de jouer. Nous avons un potentiel de fédération qui est très, très important. Ils n'ont pas tout le temps l'opportunité de se qualifier en Coupe du Monde. ils n'ont pas cette régularité que, par exemple, que l'UEFA a en termes de compétition. Donc, je pense qu'il nous faut faire attention avant d'aller à 4 ans. Aujourd'hui, 2 ans, ça me paraît une bonne fréquence en termes d'organisation. Mais une fois que le débat est posé, il faudrait qu'on puisse s'asseoir, partager les idées entre la FIFA et la CAF, et qu'en dernier lieu, ça soit les instances régulières de la CAF qui décident d'y aller, en ayant mesuré l'impact, aussi bien en termes de popularité du football dans notre continent, qu'en termes de ressources, parce que l'autre problématique pour le football africain et pour la CAF, c'est comment générer les ressources nécessaires, comme les autres confédérations, pour pouvoir mieux développer, de manière plus autonome d'ailleurs, le football africain à tous les niveaux, surtout à la base. Le potentiel de jeunes qui sont la touche est énorme, et je pense qu'en réfléchissant mieux, nous trouverons la bonne formule qui peut être ce que le président Infantino a proposé, mais aussi ça peut être un juste milieu à trouver entre ce qui se fait maintenant et ce qu'il a proposé. Pourquoi pas, sur les années de Coupe du Monde, par exemple, ne pas organiser la CAN et après reprendre une fréquence d'une CAN tous les 2 ans.
D'accord. Une dernière question d'Olivier Pron à vous, monsieur le candidat, on va dire.
Et vous n'êtes pas le seul en Afrique de l'Ouest, monsieur le candidat, puisque vous parlez de d'unité, d'une Afrique unie. On peut pas dire que les présidents de fédérations d'Afrique de l'Ouest soient tout à fait unis. Vous êtes 3 parmi les 5 candidats. Est-ce que vous ne craignez pas une dispersion des voix? Est-ce que vous pouvez envisager, on a cru l'entendre de la part de monsieur Anouma, que nous recevions vendredi, qu'il comptait notamment vous appeler, enfin je pense que vous vous appelez régulièrement. Peut-être pas pour parler de vos candidatures, mais c'est vrai que pour l'instant, quand on parle d'unité, là, on a 3 candidats d'Afrique de l'Ouest pour le moment. Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire.
Oui, Olivier, vous savez, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, on le sait, quand on parle de football en Afrique, on pense immédiatement à l'Afrique de l'Ouest, parce que je pense que c'est ce qui se fait de mieux à nos jours. Les plus grandes stars, les équipes, en tout cas, pour la majorité, à part l'Égypte, les plus titrés, aussi bien en compétition de jeunes qu'en compétition d'équipe nationale A, ils sont. Et quand vous regardez aussi les contingents en Europe des meilleurs joueurs, on vient les trouver forcément en Afrique de l'Ouest. Mais à côté de cela, 60 ans après, il n'y a jamais eu un président de la CAF qui vient de notre zone. Et donc, je disais à quelqu'un que je mettais la pléthore de candidatures de notre sous-région sur le fait qu'il y a un besoin réel pour l'Afrique de l'Ouest de se positionner à ce poste pour apporter sa contribution. Mais en même temps, je pense que c'est le contexte qui a dicté cela. L'incertitude liée, comme je l'ai dit, à ce dossier du comité d'éthique de la FIFA. Au dernier moment, donc, toutes ces personnes-là qui se sont présentées l'ont fait forcément sans concertation. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de savoir que, ce soit avec M. Jacques Anouma ou M. Ahmed Yahia de la Mauritanie, nous parlons, nous continuerons à nous parler. Les élections, ce n'est pas qu'un tour, c'est plusieurs tours. On a besoin d'alliances, on a besoin de concessions, puisque je pense que nous tous, nous ne sommes motivés que par une chose, essayer d'apporter notre contribution au plus haut niveau au développement du football africain. Et à partir de là, je pense que ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'il y a 3 candidats, mais au final, il n'est pas sûr qu'il y ait 3 candidats, on peut se retrouver. Et ce qui est important aussi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons le profil des candidats qui est assez intéressant. Je ne vais pas tirer la couverture sur moi. Je pense que Jacques Anouma, même si les générations actuelles de président de fédération le connaissent moins, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire aussi bien du football au niveau de la fédération qu'au niveau de l'institution CAF et de la FIFA. Mon petit frère Ahmed a fait de bonnes choses dans son pays. Il est aussi aujourd'hui un membre influent du comité exécutif. Et moi-même, depuis 11 ans, je sillonne les routes de Zurich et du Caire pour être au service du football africain. Donc l'important, c'est que même si nous sommes 3, et qu'il y a de la qualité, et que parmi nous, un puisse assurer demain des lendemains qui chantent à la CAF.
Merci beaucoup, Augustin Senghor. On a fini, on en a fini avec les questions aux candidats, mais Habib Bey est à côté de moi et on aurait bien aimé parler un peu football avec vous et vous féliciter quand même.
Pendant... Vous parlez pas en Wolof.
Magnifique, ça va. Non, félicitations, Augustin.
Ouais, non. Félicitations à toi aussi, vraiment.
Merci beaucoup, c'est gentil. Non, mais c'est bien déjà de voir le Sénégal qualifié. Moi, ma question, c'était un petit peu de savoir, est-ce que c'est cumulable le fait d'être président de la fédération et justement président de la fédération sénégalaise de football, ou tu devras faire un choix justement en fonction de ça?
Non, un président de confédération, il doit être équidistant de toutes les associations membres. Et le jour où je suis élu, le lendemain, je ne suis plus président de la fédération sénégalaise de football.
D'accord.
Je ne sais pas si ça te fait plaisir.
Oui, non, justement, c'est ce que j'allais te dire ensuite. J'allais te dire ensuite pourquoi ça me fait pas plaisir, parce que je pense que, et c'est pas de la langue de bois, ou c'est, je pense vraiment que tu fais du très bon travail depuis que tu es au sein de cette fédération, tu as amené de la stabilité. Tu as choisi aujourd'hui un entraîneur que j'apprécie beaucoup et que je connais bien, et tu as su le maintenir lorsqu'il a été sous pression, et on voit aujourd'hui le fruit de cette confiance que tu lui as donnée, parce que le Sénégal a de très très bons résultats. On n'est pas passé loin du trophée ultime en Afrique, de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a une autre qui arrive, et il y a aussi des échéances Coupe du Monde, et je me dis, est-ce que tu penses pas que cette ambition, qui est à un moment donné une ambition personnelle qu'on a tous, j'en ai eu aussi dans ma carrière et je le comprends tout à fait pour la tienne, est-ce que tu penses pas que ça peut être déstabilisant pour cette structure et cet équilibre que tu as pu trouver au sein du football sénégalais, de peut-être éventuellement partir au sein de cette confédération africaine et laisser en quelque sorte la place à quelqu'un d'autre qui, face à des échéances qui sont très proches, pour moi la Coupe du Monde c'est demain et la Coupe d'Afrique c'est presque aujourd'hui, est-ce que tu penses pas que ça peut être déstabiliser le football sénégalais dans son ensemble?
Justement, Habib, je pense que toi-même tu l'as dit, le plus grand acquis de notre football maintenant, c'est sa stabilité. Il y a 7 ou 8 ans, j'en aurais pas dit de même. Justement, le propre de la stabilité, c'est de pouvoir assurer une certaine continuité. Aujourd'hui, en tout cas, on a travaillé en équipe au sein de cette fédération. Je ne suis pas seul, je suis loin d'être un homme miracle, c'est parce qu'il y a une équipe qui travaille. Des vice-présidents, on a 6 vice-présidents, on se répartit les tâches, même dans la gestion de l'équipe nationale, je n'ai pas besoin d'être tout le temps là-bas. Et aussi, ces programmes que nous avons mis en place, nous les avons stabilisés autour d'un plan-programme, et nous avons l'avantage d'une stabilité d'équipe, c'est-à-dire aujourd'hui, dans notre fédération, peut-être les 2/3 des membres du comité exécutif sont là depuis 3 ou au moins 2 mandats. Donc, je pense que si je devais partir, il n'y aurait pas un vide, j'en suis certain. Les personnes sont assez de qualité pour pouvoir continuer le travail. L'autre aspect qui me semble important, c'est que le comité exécutif lui-même, à un moment donné, a dit que le modèle que tu as essayé de mettre en place au niveau de notre fédération et qui marche, peut-être que c'est ça qui manque à la CAF, et que peut-être toi, maintenant que tu es connu dans les rouages, que tu es bien apprécié, en apportant ce plus-là, ça peut permettre, pourquoi pas, de mettre notre expérience au service d'un plus grand projet qui est celui du continent africain. Parce qu'en réalité, même si ça peut marcher pour les fédérations, il y a presque une sorte de relation dialectique entre la santé d'une confédération et de celle de ses membres. Donc, c'est juste changer de station, mais c'est la mission qui continue.
Merci beaucoup, Augustin Senghor, d'avoir été en direct dans Radio Foot International avec nous, et on vous souhaite bonne chance. On aura sans doute l'occasion de se reparler avant ce scrutin du 12 mars prochain. Merci beaucoup.
Merci Annie.
Et bravo,
merci
au Lyon.
À tout le monde. Bonne
merci.
Émission. Je
merci
vous dis
beaucoup.
Aussi que tous les jours, je vous écoute à 16h10. Je suis dans mon cabinet et j'écoute votre émission.
Bon, ben voilà, ça fait sourire Franck Simon, Naïm Moniol et Habib qui sont autour de moi, et Laurent Salerno qui est à la réalisation, par exemple. Merci beaucoup et à très bientôt alors. Bon travail, merci.
Merci.
Ben justement, les Lions, on en parlait, les amis Essions, on en parlait d'une manière plus technique.
C'est à Sadio de garder le cap très haut.
Sadio Mané cherche le relais.
Et de se dire que je suis le leader technique et moral de cette équipe-là.
Sadio Mané qui pousse sur les formes. Sadio Mané, le but du break.
Et quand ils auront besoin de moi, quand on sera en difficulté, j'ai pas besoin de faire un grand match, mais je vais faire un exploit comme il l'a fait aujourd'hui.
Fabulous Mané, son 21e but avec le Sénégal. Il égale cet après-midi en certain El Hadj Houssaynou Diouf. Quel joueur.
Et la lumière fut d'un tir bien ajusté, le Lion. Sadio Mané a donc inscrit le but de la victoire du Sénégal, un but qui a propulsé les Lions de la Teranga à la prochaine CAN. C'était hier en Guinée-Bissau et vous l'avez entendu, El Hadj Diouf était là. On l'a entendu louer son successeur chez les buteurs, tout simplement parce qu'il a inscrit son 21e but. Il a dépassé Jules Bokandé qui en avait inscrit 20 sous le maillot des Lions. Et il a surtout égalé donc le record qui était de El Hadj Diouf. Alors, il y en a encore un devant lui, mais en tout cas 21 buts et c'est lui qui débloque la situation, Habib.
Oui, bah c'est forcément l'homme clé de cette sélection, lui a mis beaucoup de pression sur ses épaules, c'est venu en fin de match, c'est bien pour Sadio. Il avait marqué aussi un pénalty sur le match précédent. On sait que les pénaltys ont été un petit problème lors de la CAN où on avait un peu taquiné là-dessus. Je crois qu'il est en ligne de ce qu'il fait avec Liverpool. Il faut pas attendre les mêmes performances. On l'a toujours dit, c'est pas le même contexte, c'est pas du tout la même pression. Ce qui est sûr, c'est qu'il prend ses responsabilités. Il continue à maintenir lui, mais aussi ses coéquipiers parce qu'il est pas le seul. Il y a un travail qui est fait au sein de cette sélection et surtout ses joueurs qui produisent aujourd'hui de très bons matchs. Et il faut le dire. Et ça, c'est important. Et je pense que Sadio sera celui qui va, en quelque sorte, éventuellement, comme le faisait El Hadj à l'époque, mettre la petite chose en plus qu'il faut dans les grands matchs.
Ouais. Cette équipe, Franck Simon, c'est 4 victoires en 4 journées d'éliminatoire, 9 buts marqués pour un seul encaissé. C'est la confiance du finaliste de la dernière compétition.
Et on peut même aller au-delà même de la dernière phase finale. On peut remonter plus haut.
Ouais.
Pas oublier qu'il y a aussi une Coupe du Monde en Russie et des éliminatoires avant. Ouais. Donc en fait, ils sont dans la continuité d'un travail. C'est le travail qu'a débuté Aliou Cissé, qui continue. On en parlait tout à l'heure, Habib a évoqué justement le maintien d'un technicien qu'il connaît bien.
Voilà.
Et
un travail sur le long terme.
Voilà, contre vents et marées, parce qu'il est beaucoup critiqué. Et ce qui est intéressant là, c'est la stabilité qui peut être donnée. C'est aussi que quand on fait entrer quelques éléments, comme ça a été le cas sur ces deux matchs miroirs, bon, ça reste une équipe quand même solide et stable. C'est ça qu'il faut voir dans ces éliminatoires-là.
Et dans les contextes toujours particuliers.
Sinon, on va faire une moitié d'émission pour dire, oui, effectivement, il y a le problème de la chaleur, mais c'est pas le plus important. Il y a le problème, le plus important critique, c'est celui des aires de jeu.
Mais
comment
voulez-vous
faire du bon football sur des bonnes aires de jeu? Donc, ils ont fait comme...
Comores.
Oui. Mais ils ont fait comme ils ont pu à Thiès, à la Dior, là à Bissau, ils ont fait aussi. Bon, et non, mais moi ce que j'aime dans ces équipes qui ont du vécu, qui peuvent avoir du panache, mais qui ont du vécu, surtout, c'est quand elles font preuve de patience. C'est là où tu vois qu'elles ont passé aussi, je pense, un cap. Et dans le cas du Sénégal hier, en face, il y avait une équipe qui voulait vraiment pas perdre. Elle était chez elle, mais qui avait pas des méga prétentions non plus. Et ils ont su être patients. Et puis quand t'as un Sadio Mané, je suis désolé, mais ça, c'est un garçon extraordinaire et un joueur merveilleux.
Naïm Ognol.
Mes camarades me font rire. Non, mais
pourquoi?
Parce qu'ils sont très patriotes. Alors Habib, je le comprends, Franck moins, mais
moi je suis pas patriote. Pour la France, oui, mais pour le Sénégal, je vois ce que j'ai.
Franck appelle de la patience, que beaucoup de gens appellent de l'impuissance. Bon, Habib parle de match abouti. Je pense qu'il les voit pas jusqu'au bout. En fait, le problème.
J'ai pas parlé de match abouti.
Non, t'as dit ils font une très bonne prestation.
Ce qui est faux,
Habib.
Alors encore une fois, c'est remettre en relation le contenu et le résultat. Moi, tu me dis ce que tu veux, et je peux l'entendre ce discours pendant 20 ans, l'histoire du contenu, l'histoire des émotions, sauf qu'à un moment donné, le football, c'est du résultat. Les émotions, même le contenu, on parle beaucoup de contenu, tout le monde parle de contenu aujourd'hui, sauf que le contenu n'est validé que par le résultat. Si aujourd'hui, t'as un contenu pendant 20 matchs qui est très très bon, mais que t'as perdu 20 matchs, ou que t'en as perdu 15 et t'as fait 5 nuls, à un moment donné, je suis désolé, le contenu va passer à la trappe.
Oui, mais ton contenu, il est quand même un peu, il reflète, ton résultat est souvent reflété par ton contenu. Et à un moment donné, c'est très bien de se qualifier, de faire des cartons pleins dans les éliminatoires, mais tu ne peux pas te satisfaire du résultat quand tu as sur le terrain un tel réservoir face à une équipe qui est aussi inférieure à toi, avec tout le respect que j'ai pour la Guinée-Bissau, qui joue avec ses armes et qui fait ce qu'elle peut, et on pourra dire sur d'autres matchs la même chose de d'autres adversaires, ce que le Sénégal montre est insuffisant. Oui, ils se sont qualifiés, ils ont marqué un but sur une pelouse qui était peu praticable, ce qui est le cas de beaucoup d'autres équipes, pas de souci, mais personne ne comprend son fond de jeu, personne ne comprend qui fait quoi. Sadio Mané, qui marque un but, et on va retenir que ça de son match, c'est très bien. Sur sa prestation d'ensemble, on l'a beaucoup vu courir, finalement réussir peu de choses. Et à un moment donné, comment est-ce que t'expliques qu'une équipe qui a un tel vécu, une telle stabilité sur le banc, ce qui est rare en Afrique, très très rare en Afrique d'avoir une telle stabilité sur le banc, avec un tel réservoir, que ce soit chez les titulaires ou chez les remplaçants, pourquoi est-ce que tu montres aussi peu de choses dans le jeu? Mais pourquoi est-ce que t'es aussi peu puissant dans le jeu, avec autant de joueurs de qualité?
Ils vont répondre, Habib.
Non, mais en même temps, oui, mais parce que c'est encore une fois, on va mettre en relation avec le sélectionneur qui est à l'UCC, comme peut être le sélectionneur Didier Deschamps en équipe de France. À un moment donné, ils ont un projet, ils ont une philosophie qui correspond à ce que tu vois du Sénégal, qui correspond à ce que tu vois de l'équipe de France. Est-ce qu'ils ont des résultats? Oui, ils ont perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que leur finale est mauvaise en termes de contenu? Si je la compare à celle de l'Algérie, je ne trouve pas. Pourtant, l'Algérie gagne le titre. Encore une fois, c'est que il faut faire attention à ne pas se focaliser sur ce qu'on aime et ce qui nous parle et ce qui est un petit peu notre sensibilité footballistique. Moi, j'arrive à me détacher de ça parce que, encore une fois, j'aimerais voir le Sénégal bien mieux jouer qu'ils le font. Et je suis d'accord avec toi. Si tu me demandes de juste analyser le contenu, je vais te dire, c'est pas ce qui me plaît et je pense que tu peux mieux faire. Mais est-ce que si tu fais mieux, t'as les mêmes résultats qu'à Olivier.
Je suis d'accord pour me détacher d'une idée que j'ai du football. Par contre, c'est difficile de me détacher du football qui est pratiqué avec le talent des joueurs, parce que c'est pas cohérent. Si t'avais une équipe moyen de joueurs qui jouent en Ligue 2 dans des clubs amateurs, je pourrais dire ils font ce qu'ils peuvent et seul le résultat compte.
Alors, Naïm, mais là, on parle du Sénégal. On va dire à Franck de répondre et après on va malheureusement passer à un autre sujet parce que sinon on n'aura parlé que du Sénégal dans cette émission. Alors on l'aime beaucoup, mais il y a d'autres sujets.
Je vais pas répondre à Naïm dans le sens où c'est son analyse que je ne la partage pas, même si j'entends ses arguments. L'idée du Sénégal, effectivement, c'est sans doute de faire autre chose. L'essentiel, c'est pas que toi ou Habib ou moi, ça nous plaise, ça nous plaise pas. L'essentiel, c'est que Aliou Cissé soit cohérent par rapport à ce qu'il veut de ses joueurs et de ce qu'il reçoit en termes de production de ses joueurs. Je l'ai pas entendu pour l'instant s'en plaindre. S'il s'en plaint, c'est qu'effectivement, ils seront peut-être à côté de la plaque. Mais évidemment, on a envie de voir un Sénégal avec plus de brillance et plus de buts. C'est pas le cas en ce moment.
Joseph-Antoine Bell va intervenir dans ce débat. Il pose juste une question qui a dit qu'il fallait opposer contenu à résultat.
Voilà. Voilà.
Mais je n'oppose pas merci, le contenu Joseph. Au résultat. Si tu as le contenu et les résultats, tu l'avais avec le Barça de Guardiola, j'entends. Sauf qu'à un moment donné, quand les équipes gagnent, et gagne très souvent, et gagne presque tout le temps, on est là à dire, oui, mais moi, le contenu, ça me plaît pas.
Excuse-moi, la fine bouche.
Je suis désolé.
Je réponds 3 secondes, Annie. À quoi ça sert d'avoir autant de grands joueurs et de bons joueurs si c'est pour jouer comme ça? À ce moment-là, sélectionne des mecs du bled, et puis c'est tout.
Laissez
les mecs se reposer en club. Laissez les gars en Europe, laissez les soigner, laissez les digérer leur calendrier en club, et puis sélectionner des types de première, deuxième division, puisque t'auras le même contenu. À ce moment-là, laissez les mecs se reposer. Mais quand t'arrives avec des types qui sont dans les meilleurs clubs, tu peux pas dire, ouais, juste le résultat compte et puis c'est cohérent avec ce qu'ils veulent.
Sachant que quand t'es les sélectionneurs, tu les as une semaine. Tu les as 10 jours, tu les as 15 jours.
Il y a un contexte quand même qui est très particulier, d'autant plus cette année. Mais on y reviendra sûrement à ce genre de débat. En tout cas, les Lions sont qualifiés, les premiers à se qualifier. Mais ils sont plus les seuls parce que cet après-midi, eh bien, ils ont été rejoints par leurs adversaires à la dernière finale. Et donc, les champions d'Afrique, Habib.
Yann Mahrez, si ça passe, Mahrez va se l'emmener de là, le pigeon, c'est monstrueux. Mahrez, le trip derrière la jambe d'appui, la frappe peut-être derrière, encore une fois de Mahrez. Aïe, 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 aïe. Celui-là, il est d'une violence inouïe, mon cher Patrice, quel but.
Vous l'avez vu ce but, Naïm?
Oui, je l'ai vu. Et alors? Je commente. C'est une très longue transversale avec un contrôle emmené d'une aile de pigeon. Il arrive dans la surface, il fait feinte à droite, feinte à gauche, il repart à droite, il frappe croisé, pied droit, c'est magnifique.
Bon, les Algériens, je sais pas s'ils ont mis la manière, mais en tout cas, ils sont au rendez-vous eux aussi.
Il y a une belle première mi-temps.
Mm-hmm. Ouais, bon, c'était sur une pelouse.
Peu praticable.
Peu praticable, Franck.
C'est-à-dire qu'effectivement, si vous commencez à opposer celle du 5 juillet d'Alger au National Stadium de Harare, Voilà, ah oui. C'est le jour et la nuit, comme disait Raymond Goethals, mais il faut plus qu'on en soit là. Moi, je suis désolé. Là aussi, j'attends que l'Algérie, dans ce qu'elle produit, ça soit. Là, ils nous ont fait effectivement, allez, quelques bouts de première mi-temps de très 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 grosses factures. Mais t'attends que ça, il y en a un petit peu plus dans le match. Et c'est pas normal le trou d'air en seconde période. Quoi.
C'est beaucoup mieux de faire 90 minutes plat comme le Sénégal.
C'est ce que tu penses.
Bon, oui, c'est ce que on va plus parler du Sénégal. Non, on vous interdit, Naïm, c'est bon. 2-2 en tout cas à Harare, et donc les voilà, eux, partis pour la CAN au Cameroun, on l'appelle Cameroun 2022. La belle histoire qui continue pour les Sélakantes, cette équipe nationale des Comores. Alors cette nation, cette petite nation, hein, ce n'est qu'un archipel 132e classé par la FIFA, derrière le Malawi, la Corée du Sud ou encore les îles Féroé, eh bien cette équipe est sur le point d'accomplir un exploit, participer, qui sait, à la phase finale de la CAN pour la première fois de son histoire. Alors on se souvient de leur dernière campagne, déjà ils n'étaient pas passés loin. Les Comores n'auront besoin que d'un point lors de la prochaine journée à domicile, ça sera face au Togo en mars 2021. Ils sont en tout cas invaincus dans leur groupe qui comprend aussi le Kenya et l'Égypte. Sur l'archipel où avait lieu le dernier match contre le Kenya, donc remporté 2-1, c'était la fête et c'est ce qu'a confirmé à Hugo Moissonnier le sélectionneur Amir Abdou.
Très heureux, on est content pour le peuple. Voilà, ici c'est la folie. Mathématiquement, on n'est pas qualifié, mais voilà, on est en bonne posture. On a quand même 8 points. Non, on est confiant. L'équipe n'a rien lâché et on a pu aller chercher cette victoire. C'est un rêve pour nous, pour un peuple. C'est un travail de longue haleine et c'est une progression normale pour nous. Il y a une véritable cohésion, puis on n'a pas de stars. Voilà, ils sont tous déterminés à aller chercher quelque chose ensemble.
Franck, cette équipe de Amir Abdou, il dit, hein, on n'est pas, c'est pas des individualités, c'est un groupe. Mais c'est vrai que c'est un groupe qui là aussi a une stabilité dans ses résultats.
Stabilité dans les résultats, mais d'abord une stabilité dans l'encadrement technique, parce que ça fait 6 ans et demi que Amir Abdou est sur le banc des Sélakantes, ce qui est sur le continent africain est limite une aberration, mais tant mieux parce que ça veut dire qu'il a bien travaillé. La stabilité, elle est un peu moins vérité dans l'effectif. Si vous prenez depuis 6 ans, depuis son arrivée, il avait commencé à trouver quelques joueurs ici et là, notamment dans la région PACA, du côté de Marseille, où il y a une grosse une diaspora importante. Aujourd'hui, il a un groupe avec quelques cadres des trentenaires qui sont importants. Je pense à Najim Abdou, qui est à Martigues, le capitaine. Vous avez des joueurs comme Ali Amada dans le but. Vous avez, bien sûr, le joueur un peu symbole, l'avant-centre, El Fardou Ben Nabouane, qui a été décisif hier contre le Kenya. Lui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est bien d'avoir cette colonne vertébrale. C'est bien aussi de pouvoir convaincre, à force de résultats toutes ces années, des jeunes joueurs binationaux, des jeunes franco-comoriens, ou tout simplement ou maorais, mais les maorais sont considérés en fait, non pas français, mais comoriens par la fédération et l'équipe. Ouais. C'est bien de pouvoir les convaincre de rejoindre, comme c'est le cas en ce moment. Et c'est vrai que cette équipe avait commencé par une victoire au Togo, à Lomé, et ils ont continué comme ça.
Ils ont accumulé.
Puis ça joue au football. Ça joue au football. C'est une équipe qui est joueuse depuis 5-6 ans que le coach est là.
Habib, c'est une belle histoire. On en a vu d'autres dans d'autres CAN, comme par exemple Madagascar l'année dernière, ou le Burundi. Donc il y a une progression aussi quand on dit qu'il n'y a plus de petites équipes.
Mais c'est ce qu'il faut dire aussi dans ce football africain du continent. Et je pense que Franck le sait. Il en commande beaucoup. Il aime le football du continent. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que l'écart s'est réduit, bien sûr, avec les grandes nations africaines, mais ce qui est sûr, c'est que les petites équipes travaillent beaucoup mieux parce qu'ils se sont inspirés dans leur structure, dans leurs exigences aussi de travailler. À un moment donné, il y a des entraîneurs qui arrivent et qui aujourd'hui mettent en place des choses qui se font dans d'autres grandes nations africaines. Et je pense que c'est pour ça aussi que l'écart s'est réduit. C'est pour ça qu'on voit la Mauritanie, on en parle très souvent.
Madagascar,
travaille très très bien. Moi, je suis parti en Mauritanie. Ce que fait Ahmed Yahia, le président de la fédération, et même Corentin Martins, ils essaient de se rapprocher le plus possible dans la préparation d'un match, de ce qui se fait ailleurs. Et mine de rien, ça porte ses fruits parce que les joueurs sentent qu'il y a une structure derrière. Les joueurs sentent que les réalités africaines. Hein, à un moment donné, on peut pas aujourd'hui avec les moyens qu'on a aujourd'hui sur le continent. Mais on sent qu'il y a du travail derrière. Et c'est vrai que ces petites équipes sont en train de très bien travailler tactiquement. Elles se dotent aussi de gens qui viennent travailler ponctuellement sur l'analyse vidéo. On se rend pas compte.
Ils ont un staff énorme.
Qui est important. Donc c'est pour ça que ces petites équipes pointent le bout de leur nez aujourd'hui.
Tu sais pourquoi c'est énorme ce que fait le travail des Comores, c'est que c'est vrai qu'il y a une grosse diaspora comorienne du côté PACA, Marseille, Avignon, Martigues, Marignane, ainsi de suite, mais finalement ils n'ont pas tous le niveau pour jouer en équipe nationale. Et aujourd'hui, dès qu'un joueur comorien commence à un niveau national 3, national 2, à être performant, il est tout de suite suivi par le staff, appelé. On l'essaye avant de l'emmener aux Comores. On vient le voir en France, on lui fait faire des tests, on parle avec lui. Ce qui fait que quand vous arrivez dans cette équipe comorienne, vous avez déjà le projet en tête. Vous savez à quoi vous allez servir, à quel poste vous allez jouer, comment on va vous utiliser. Parce que finalement...
Il y a un travail en amont.
C'était déjà le cas quand il a pris ses fonctions.
De stabilité et de continuité, t'es pleinement dedans. Mais tu sais, tout n'est pas bon sur 90 minutes, mais sur certaines phases de jeu, je regarde les matchs contre le Kenya, sur certaines phases de jeu, c'est du très haut niveau. Les Comores, ça joue très bien. En une touche, en transition, on change de côté, un coup à droite, un coup à gauche, il y a des joueurs qui dézonent, vous avez des... Ça commence à avoir une maturité de jeu, puis tu commences à voir sur certains circuits, sur certaines qualités individuelles, tu vois des trucs que tu ne vois pas dans d'autres grosses équipes. Bien sûr, après, le souci là-dedans, c'est toujours de garder les joueurs sur... Parce que là encore, vous avez deux journées, vous arrivez à fédérer un groupe. D'ici la CAN, qu'est-ce qui peut se passer? Les joueurs vont se blesser. Il y a qui ont des vies professionnelles à côté. D'autres qui vont peut-être, le club va être un peu moins bien. Donc, c'est le tout pour ces joueurs-là, c'est de les garder sous pression parce qu'ils ne sont pas, pour la grande majorité, dans un environnement professionnel.
Voilà pour ce qui était donc de ces éliminatoires du côté de la prochaine CAN. Il y a beaucoup de matchs, on y reviendra dans les jours prochains, on reparlera de cette remontada qu'il y avait eu entre le Nigeria et la Sierra Leone. Et puis on parlera sans doute des étalons aussi qui avancent bien et qui peut-être se qualifieront. Aujourd'hui, j'avais une question, tiens, d'auditeur. Je ne sais pas si quelqu'un de vous, d'ailleurs, pourra répondre. Il s'appelle Bernard Napoléon. Il a laissé sa question sur Facebook. Pourquoi les sélections africaines jouent sans qu'aucun nom ne soit sur les maillots des joueurs? Il n'y a que le numéro.
Non, c'est pas le vrai. Il y en a qui avaient les noms. Hein.
Ouais.
Pas toujours, alors, oui. Parce que aujourd'hui on regardait Zimbabwe-Algérie.
Je pense que pour certaines sélections, c'est de garder le maillot qui soit lavé pour être redonné sur une autre sélection. Voilà. Parce que si vous mettez un nom, ça veut dire que vous devez rééditer des maillots. Il y a des sponsoring aujourd'hui au sein des équipes africaines qui ne sont pas capables de vous redonner deux jeunes maillots neufs à chaque sélection.
Il y a aussi des. Il faut voir qu'ils ont appelé beaucoup de monde. Il y a certains garçons qui n'ont pas pu venir, certains qui ont été renvoyés. Mm-hmm. Vous imaginez si vous défloquez à chaque fois au nom du joueur.
Oui, exactement.
Ça peut être l'incertitude du moment, c'est ça, de ne pas le floquer. En revanche, il y a des grandes fédérations qui, elles, n'ont pas ce souci. On peut floquer parce que on a la machine et tout de suite, on le fait.
Voilà,
ce qui explique un petit peu ce décalage entre les grands et les autres.
Ben voilà, cher Bernard Napoléon, et c'était intéressant d'éclaircir ce point, parce que c'est vrai, quand on regarde des fois, et d'autant, par exemple, les Comores, on ne connaît pas le nom de chaque joueur et on le retient lorsqu'ils sont sur les maillots. Ils n'y étaient pas. Allez, une petite parenthèse bleue, ça vous dit?
Rabiot et Lucas Hernandez, Rabiot avec Griezmann dans la salle de réparation portugaise, Rabiot qui va pouvoir centrer fort et tirer et l'ouverture du score, là voilà, c'est N'Golo Kanté qui vient récupérer ce ballon rendu involontairement par Rui Patricio. C'est voilà, ça fini, y est. Ce qui est sûr, c'est que la France sera à ce final à 4.
Bon là, on peut peut-être le dire, des champions du monde en mode champion. En tout cas, samedi soir, dans le silencieux mais très beau stade de Lisbonne, les Bleus nous ont régalé, histoire d'effacer surtout de notre mémoire le triste France-Finlande qui avait précédé. Les Bleus, peut-être piqués au vif, qui retrouvaient surtout les champions d'Europe. Champions d'Europe à leur dépens, on s'en souvient, et des champions qui les avaient tenus en échec au Stade de France quelques semaines avant. Là, on s'interrogeait, et la lumière fut dans le Stade de la Lumière, qui est le Stade de Lisbonne. Mmh. Est-ce que vous avez aimé ce spectacle, Naïm Moniol?
Oui, forcément, c'était de bien meilleure qualité que la Finlande. On a vu une belle équipe de France.
Surtout par rapport à l'adversaire aussi, peut-être.
Oui, par rapport à l'adversaire, c'était deux nations prestigieuses, et les Portugais, en plus, évidemment, avaient joué le jeu en mettant quasiment toutes leurs stars sur le terrain. Et on aurait même pu voir un match encore de meilleure qualité si, avec un peu plus d'efficacité, Martial avait marqué un deux buts en première mi-temps, parce que le 0-0 à la mi-temps était vraiment bien payé pour les Portugais. Donc on a vu une bonne équipe de France, on a vu surtout un 11 se dégager, parce qu'il manquait Mbappé, Et il manquait a priori Giroud en 9 qui sera le titulaire de Deschamps, même s'il n'est pas spécialement plus efficace que Martial, mais en tout cas on connaît aujourd'hui 9 des 11 des titulaires avec un garçon comme Rabiot qui je trouverais injuste et incompréhensible qui sort du 11 de départ. Oui, avec un Hernandez qui a encore montré toute sa qualité, Kimpembe dans l'axe qui a montré bien d'autres choses que la charnière, que Zuma l'anglais. Donc oui, on a vu une meilleure équipe de France, individuellement des meilleurs joueurs, collectivement un meilleur jeu, et on ne peut que s'en féliciter parce qu'on restait sur une très mauvaise prestation.
Franck.
Et on a vu aussi un grand Lloris.
Ouais, aussi.
Ça compte aussi hein, quand on est quand on a des ambitions continentales et mondiales.
Il a fait des parades essentielles.
Ah, oui. De ce que j'en ai vu, parce que je n'ai vu que les highlights. Malheureusement, j'étais sur je travaillais sur un autre match, donc j'avais pas l'écran en témoin pour me. Mais de ce que j'en ai vu, j'étais assez bluffé. Mais en même temps, je suis pas trop surpris vu le nombre de joueurs titulaires contre la Finlande qui n'étaient pas là. On avait une équipe type.
Bien sûr.
Sauf effectivement Mbappé. Voilà, ils ont sorti une très grosse prestation. On les savait capables. C'était le bon moment, je trouve, pour.
Il a les 9 sur les 11, là.
Ouais.
Là
Habib, ouais. Surtout, comment on peut expliquer cette différence? Alors, je sais bien que c'était pas du tout la même équipe que face à la Finlande, mais par exemple, là, on a vu ce qu'on attend souvent. Par exemple, je pense à Paul Pogba. On a vu même Griezmann et tous les deux qui étaient là et qui étaient dans le tempo de ce match de haut niveau.
Bah, c'était l'incertitude. Je pense que la Finlande, c'était pas glamour, ça comptait pas. Donc, c'était pas en termes d'excitation et de concentration.
Ah, résultat,
à la hauteur
c'est quand même une défaite historique. Pour,
oui, mais
une
c'était pas à la hauteur de ce qu'est ce groupe. Comment ce groupe s'est construit? Ce groupe s'est construit aussi sur la victoire de la Coupe du Monde, sur l'échéance de l'Euro qui arrive avec cette ambition d'égaler leurs aînés. Je crois que l'incertitude, elle était surtout sur Pogba et Griezmann. Ils ont été au niveau de ce match-là. Quand on regarde cette équipe, la réalité, c'est que c'est la meilleure équipe d'Europe. Sur le papier, il n'y a même pas de débat. Si aujourd'hui, on prend cette équipe, on la colle à toutes les équipes que peut jouer l'équipe de France, combien de l'équipe adverse vous passeriez de l'équipe de France? Moi, je pense que vous n'auriez pas à plus de 50% de joueurs que vous transfériez d'une autre nation dans cette équipe de France. À partir de là, vous avez des joueurs aussi qui rejouent en club. Là, je pense à Lucas Hernandez, par exemple, qui rejoue avec le Bayern de Munich, donc qui est beaucoup plus compétitif. Vous avez un Kimpembe qui est titulaire à Paris. Même si Varane rencontre des problèmes en équipe de France, on sait que c'est plus ou moins une garantie de match de qualité.
Est-ce que Rabiot vous a surpris?
Il m'a pas surpris parce que on sait qu'il est capable de faire ce genre de prestations sur le plan technique.
Ce qui me plaît,
c'est maintenant la maturité qu'a ce garçon dans l'idée d'accepter de plus être au poste où il veut être. C'est-à-dire qu'il lui dit, tu vas jouer un petit peu sur le côté gauche et à un moment donné, tu vas être au service de l'équipe de France. Vous savez, il y a des déclics dans une carrière. Il a raté quand même un titre de champion du monde. C'est-à-dire que potentiellement, il aurait pu être à la Coupe du Monde, même s'il était réserviste. Oui. C'est que dans sa tête, ce garçon, à un moment donné, il était devant sa télé et il s'est dit, merde. J'ai fait quelque chose où j'ai peut-être raté un titre de champion du monde. Je ne veux plus rater le train.
Et on lui donne une deuxième chance.
Et moi, je trouve que ça, c'est incroyable. Qu'il ait aujourd'hui une seconde chance.
Il y a un autre déclic, c'est qu'il a la Juve.
Oui, bien sûr. Là, t'as tout à fait raison.
Il est arrivé dans un vrai club.
Tout à fait. Il est dans un vrai club où on lui dit, à un moment donné, tu peux pas être au-dessus de l'institution. Et c'est soit tu vas dans le sens du club et tu te mets l'exigence que demande ce club depuis maintenant 100 ans. C'est pas depuis 2 ans, c'est depuis 100 ans. Je sais pas depuis quand existe la Juve, mais c'est un petit peu l'idée.
La vieille dame.
Et aujourd'hui, clairement, on a un autre joueur dans l'attitude, on a un autre joueur dans l'état d'esprit. Après, la qualité technique de Rabiot qu'il montre en équipe de France, c'est ce qu'il a déjà montré au PSG dans des grands matchs. Ça, par contre, c'est une bonne chose pour Deschamps. Et puis Deschamps, il faut le dire. Moi, je suis désolé. Management, la capacité qu'il a à mobiliser ses joueurs sur les grandes rencontres, c'est ce qui se fait sûrement de mieux aujourd'hui au monde. Même si le contenu, parfois, même si là, il était bon. C'est pas ce qui se fait de mieux.
Alors, résultat, cette équipe de France, elle est qualifiée pour le Final Four, comme on dit, le tournoi final de cette Ligue des Nations. Mais ça sera dans un an, et dans un an, il sera peut-être passé des choses, Habib, n'est-ce pas? Si on a vraiment un euro au milieu de tout cela. Et justement, pour ce qui est de ce tournoi, on se demande qui seront les qualifiés avec les Bleus. Il y aura demain un Espagne-Allemagne.
Les Belges?
Absolument. Pas encore.
Pas encore mathématiquement, mais ils y vont quasiment.
Ouais, pas encore. Et puis entre l'Italie et les Pays-Bas, effectivement. Il y a encore des choses, donc les prochains jours seront très intéressants. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce Radio Foot International. Merci à Tom Rossi qui m'a aidé à préparer l'émission aujourd'hui. Laurent Salerno était à la réalisation et on vous donne rendez-vous demain.